Radio Entre Deux Mers avec Isabelle Papineau, évaluatrice du CLIC Entre Deux Mers.
Bonjour Béatrice, bonjour à tous.
Voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre quatrième émission sur la thématique des aidants familiaux. Le groupe de travail dans le cadre du programme Aide aux aidants, impulsé par la MSA et rejoint par nos partenaires territoriaux, s'intéresse aujourd'hui à la relation aidant-aidé. On parle donc du couple aidant-aidé, la relation d'aide étant la base de ce couple. En effet, faute de termes plus appropriés, on appelle aidé la personne en perte d'autonomie physique ou psychique qui nécessite l'aide généralement quotidienne d'une personne de son entourage proche, conjoint, enfant. Celle-ci est appelée aidant principal ou aidant familial ou même aidant naturel pour les différencier des aidants professionnels. Bâti le plus souvent sur la base d'un lien préexistant, affectif ou de parenté, le couple aidant-aidé va prendre forme avec l'avancée dans la maladie. Lors de cette émission, nous allons tenter de définir les contours de ce que peut être la relation aidant-aidé en évoquant les notions de charge ressentie ou de fardeau, de dépendance ou d'interdépendance, d'ajustement. Pour en parler aujourd'hui, nous avons invité M. Crochet. Bonjour M. Crochet.
Bonjour.
Et Pomme Onadja, qui seront nos témoins. Ainsi, dans un contexte de vieillissement de la population, évident, puisqu'en 2060, 32% de la population de la France métropolitaine aura plus de 60 ans, la prise en charge des personnes âgées dépendantes et de leur soutien à domicile sont des questions primordiales. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 8 personnes sur 10 âgées de 60 ans et plus sont aidées par un proche. Une question se pose alors, comment les aidants vivent cet accompagnement de la personne malade ?
En effet, 2 aidants sur 10 ressentent une charge importante synonyme de fatigue morale et physique. Et bien souvent, leur investissement dans une aide diversifiée et l'absence d'un réseau de soutien intensifient la charge ressentie. La conciliation entre l'activité d'aide et la vie familiale, sociale et professionnelle de l'aidant devient compliquée, voire insurmontable avec le temps. On parle alors de charge ressentie ou de fardeau. La charge ressentie de l'aidant est l'ensemble des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales et financières ressenties par l'aidant. Cette charge a une dimension objective. Celle-ci correspond à l'ensemble des tâches effectuées par l'aidant, mais aussi une dimension subjective correspond aux conséquences perçues par l'aidant sur ses activités, sa vie personnelle, familiale, professionnelle, voire sur sa santé. Monsieur Crochet, bonjour. Vous êtes notre bonjour. Témoin aidant de cette émission. Merci. Pouvez-vous vous présenter et de qui êtes-vous l'aidant ?
Alors, je suis Christian Crochet, donc je suis retraité, j'habite Haute-Gironde, 10 km au nord de Saint-André-du-Cubzac. J'aide, j'accompagne mon épouse du mieux possible. Elle a été diagnostiquée Alzheimer début 2012, dépistée par notre généraliste en début 2011, mais bon, j'ai pas suivi. Et là, le généraliste a un travail très important, je crois, aussi à faire à ce niveau. Alors, une fois le diagnostic placé, c'était le grand moment de désarroi. Quoi faire ? Comment ? Existe-t-il des solutions ? Y a-t-il des institutions ? Pour avoir une autre entrevue avec mon généraliste, il m'a orienté vers une association, l'AMSA de Saint-Savin-de-Blaye, et tout s'est mis en place tout doucement. Donc, une évaluation par Memosiad de mon épouse pour savoir le protocole nécessaire et les accompagnements nécessaires. Donc il a été mis en place une personne qui vient toutes les semaines, à raison de 4 heures. Et après, j'ai suivi une formation de 5 après-midi avec la Maya, qui est une antenne de l'AMSAD, pour expliquer ce qu'était la maladie. Ensuite, j'ai eu droit au séjour répit aidant aidé sur la Cano en 2015.
Dont nous avons parlé tout à l'heure avec Madame Onadja, on y reviendra.
Et en suivant, j'accompagne mon épouse donc 24 heures sur 24. Une journée type, c'est la faire lever, lui préparer son déjeuner, la faire déjeuner, lui faire prendre ses médicaments, la laver, l'habiller. En gros, entre 1h15 et 1h30 tous les matins. Puis s'en occuper par des jeux, des promenades, des visites dans la famille, 2 à 3 heures par jour. C'est assez compliqué parce qu'elle n'est pas télé, donc je ne peux pas faire comme les enfants, la mettre devant la télé et lui dire de regarder. Voilà, donc depuis quelque temps, elle ne peut plus lire, elle adorait lire. Excusez-moi.
Donc il y a beaucoup d'aides qui se sont mises au niveau professionnel. Vous
Oui.
aussi, vous avez eu des formations. Et au fil des années, donc vous dites depuis 2011-2012, avez-vous constaté des répercussions sur votre vie personnelle, familiale, professionnelle, votre santé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Alors, répercussions, oui, sur la vue personnelle, bon, le cercle des amis, il s'est restreint, hein, par la force des choses. Même si la maladie n'est pas contagieuse, hein, c'est pas quelque chose qui se transmet. Donc, après, au niveau familial, très peu pour moi, parce que la famille participe beaucoup.
Ouais.
J'ai une aide de cousins, de mon frère, de ma belle-sœur. Et après, au niveau de la santé, moralement et physiquement, il y a des moments de grande solitude, quoi.
Et vous avez trouvé de l'aide auprès des professionnels, qui se sont mis en place petit à petit?
Voilà, tout à fait. Je suis toujours en contact avec les professionnels qui nous ont aidés, enfin qui m'ont aidé depuis le début. Et c'est un petit peu le but que je veux faire, c'est leur redonner un petit peu ce qu'ils nous ont appris, ce qu'ils nous ont inculqué, et redonner à ces gens-là pour effectivement faire avancer un petit peu là. Le processus, quoi, c'est
Donc, ainsi, au-delà de la charge ressentie, l'aidant que vous êtes, Monsieur Crochet, doit trouver sa place et la place la plus juste auprès de l'aidé et de sa famille. C'est un exercice périlleux, on le voit. Il doit rechercher un équilibre entre l'octroi de l'aide nécessaire et la préservation de son de l'indépendance de chacun. La place de l'entourage est modifiée par la pathologie. Par exemple, le développement d'une maladie neurodégénérative rend souvent la communication plus difficile et entraîne un délitement des liens avec la personne aidée. Les aidants entrent dans une période qu'on appelle le deuil blanc, qui est caractérisée par la perte de la réciprocité entre les êtres, hein, dans la communication. Le deuil blanc intervient notamment chez l'entourage des personnes atteintes de maladies dégénératives comme Alzheimer. Les proches doivent alors faire le deuil de la personne qu'ils ont connue. Enfin, en effet, l'atteinte des capacités mentales de la personne aimée font qu'ils ne reconnaissent plus ou qu'ils reconnaissent difficilement les proches et les traits de la personnalité de cette personne peuvent s'effacer. Le deuil blanc crée de la confusion dans les relations et empêche souvent d'aller de l'avant. Monsieur Crochet, pouvez-vous nous évoquer l'évolution de la relation entre vous et votre femme à travers la maladie qu'elle a eue?
L'évolution, étant donné que je la vis tous les jours, puisque je vis 24 heures sur 24 avec elle, pour que tout se passe bien, il faut une adaptation perpétuelle, quoi. C'est une adaptation systématiquement à ses paroles, à ce qu'elle veut faire, à ce qu'elle. Donc vous êtes obligé de vous adapter systématiquement. Mais bon, ce qui est l'évolution de la relation à travers la répétition des mots, des phrases. Ça entraîne une lassitude qui fait que on arrive au conflit, quoi, malheureusement. C'est pas toujours, il faut impérativement éviter, c'est pas toujours possible, mais il faut éviter ce genre de choses après.
D'accord. Et dans cette relation que vous vivez, est-ce que vous pouvez situer des moments clés où il y a eu des changements, où il y a des choses importantes pour vous dans cette relation?
Ce que je peux faire, c'est le comparatif début et maintenant, puisque ça fait 5 ans maintenant que. Donc, au début, la maladie, pour avoir essayé de lui expliquer, j'ai pris le temps elle était encore consciente de ce qui se passait. Et donc, sa réponse a été je vais tout faire pour m'en sortir. Voilà. Et donc elle était persuadée qu'elle n'était pas malade. Elle est toujours persuadée qu'elle n'est pas malade. Donc je peux pas. Et là, je la laisse dans cet état-là. Quoi. Je peux pas lui dire le contraire parce que je la mets sinon en situation d'échec. Et c'est après, on entre dans des discussions à n'en plus sortir. Quoi.
Donc voilà. C'est vous qui vous adaptez.
Ouais,
systématiquement
ouais, ouais.
Qui devait vous adapter au moment que vous vivez au fil du temps.
Voilà.
Les enfants disent souvent qu'ils deviennent le parent de leurs parents, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez cette impression, effectivement?
Moi, c'est par rapport à la formation que j'ai retenu cette phrase de la formatrice de la Maya, qui dit « une vie, ça se tricote ». Et là, dans cette maladie-là, on détricote la vie. Mm-hmm. La vie se détricote, quoi, tout simplement. Ouais.
Alors, quand on parle de deuil blanc, c'est-à-dire de cette difficulté à reconnaître l'autre, est-ce que ça a été votre cas à un moment donné ou est-ce que ça a été progressif? Vous l'avez senti progressivement?
Je ne vous cache pas que j'étais très long, mais je l'ai admis il n'y a pas longtemps, car pour moi, admettre le deuil blanc, c'était accepter la maladie. Et accepter la maladie, c'était quelque peu renoncer à l'aider. Je ne sais pas si m'exprime bien. Bon, c'est mon ressenti. Après, c'est personnel. C'est vrai que le deuil blanc, il faut savoir le faire. C'est très, très compliqué. Hein. Quand vous vivez avec quelqu'un pendant des années et puis que vous essayez de l'aider et puis que vous voyez que ce que vous faites, malgré tout, ça ne sert pas.
C'est-à-dire que ça ne la guérit pas, mais c'est très utile.
Voilà, vous la maintenez. Quoi. Mm. Voilà. Après, bon, la maladie, c'est vrai que la maladie, elle s'impose malgré tout, tous les efforts que vous pouvez faire. Elle s'impose à vous. Et vous subissez tous les jours un peu plus, vous ne maîtrisez plus. Et la maladie progresse toutes les semaines un petit peu plus. Quoi. Et ça, d'où le sentiment d'impuissance aussi. Gros sentiment d'impuissance. Quoi. C'est, voilà.
Nous allons faire une petite pause musicale, puis nous nous retrouvons par la suite.
Une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. Jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis. Si l'on m'oublie sur terre, encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous. Mais rien de tout. Encore.
Donc, vous êtes bien sur Radio Entre Deux Mers 98.4. Avant de reprendre notre petit échange, je voulais vous informer de deux manifestations qui vont se dérouler bientôt sur le Réolais. Donc, il va y avoir des ateliers nutrition santé senior organisés par l'ACEPT. Ce sont des ateliers qui vont commencer début octobre, qui vont se terminer mi-décembre, sur le thème de l'alimentation, la nutrition. Pour plus de renseignements et des inscriptions, vous pouvez appeler Sylvie Cousin 06 64 63 36 44. Et la semaine prochaine, à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, l'association France Alzheimer et le CLIC Sud-Gironde organisent à la Réole à 18h30, donc mercredi 21 septembre, à la salle des conférences, une soirée destinée, dont le thème est « Être proche aidant en activité professionnelle ». Donc c'est mercredi 21 septembre à partir de 18h30. Il y a donc Monsieur Frézé qui est directeur de Dome Care. Il y a le docteur Rouchès, gériatre et chef de pôle gériatrique du centre hospitalier. Isabelle Papineau du CLIC et Madame Rullier universitaire. Et c'est animé par une journaliste. Voilà. On reprend notre petite discussion avec Monsieur Crochet et on se dit que confronté à la perte d'autonomie d'un proche, l'entourage familial peut être amené le plus souvent inconsciemment à infantiliser l'aidé. L'aidant anticipe les gestes, ne laisse pas le temps de la réponse, il se substitue à « ça va plus vite », enfin on a toujours des bonnes raisons. Il est vrai que la perte d'autonomie au domicile peut engendrer un risque d'insécurité. La conscience de tels risques peut avoir des conséquences sur l'anxiété de l'aidant. Mais alors qu'en institution, la sécurité est assurée, l'aidant est souvent empreint de la culpabilité face aux contraintes imposées à la personne âgée. Tous ces sentiments viennent se mêler et brouiller la relation. Cette relation aidant-aidé est fortement marquée aussi par le double sentiment de responsabilité-culpabilité, mise à l'épreuve et touchée par la souffrance, l'injustice et l'inacceptable. Les aidants se sentent coincés, obligés d'être présents, disant même que l'aidé ne peut rien faire sans lui. Les aidants vont alors évacuer toute idée de répit et vont même surinvestir leur mission en considérant leur présence comme indispensable et irremplaçable. Pourtant, on sait que la qualité de la relation entre l'aidant et l'aidé nourrit en profondeur le lien qui les unit. Cette relation peut être ponctuellement rompue, alors que le lien qui par définition est pérenne et immuable perdure dans le temps jusqu'à nous survivre. Monsieur Crochet, pouvez-vous nous dire si vous aussi vous avez ressenti ce sentiment que vous deviez tout contrôler pour protéger votre femme ?
Bah, le ressenti, il est curieux. Au début, je disais, j'ai toujours une phrase qui me vient à la tête aussi, ce n'est pas compliqué mais c'est difficile. Et maintenant, je dis toujours, c'est difficile, c'est toujours difficile, mais en plus, ça devient très compliqué. Donc, tout contrôler, non. Par contre, il faut comprendre que passer du temps à expliquer à votre conjoint qui ne comprend pas toujours ce que vous lui expliquez, c'est vrai que je préfère le faire. Au bout de 5 minutes, quand elle n'a pas compris, je laisse tomber, même s'il est important de la faire participer un maximum, je laisse tomber et je le fais.
Est-ce que c'est important d'avoir un relais extérieur du coup pour vous soulager un petit peu ?
Oui, tout à fait. Tout est intéressant à prendre, à mettre en place pour essayer de l'accompagner. Voilà, c'est, C'est ma façon de comprendre, pas de voir. Par exemple, juste un exemple pour vous dire, mettre le couvert, pour elle, c'est devenu impossible, quoi. Mmh. Même en le faisant étape par étape, comment dire, décomposant tout ce qu'il y a à faire, elle n'y arrive plus, quoi.
Donc là, vous êtes obligé de le faire.
C'est quand on dit tout contrôler, effectivement, quand vous passez entre 1 heure et 2 heures par jour à chercher les affaires qui ont changé de place, vous n'avez plus envie. Donc, vous êtes obligé de rester à ses côtés pour pouvoir voir ce qu'elle fait. C'est pas contrôler, c'est essayer de faire en sorte qu'il n'y ait, j'en reviens au conflit, c'est parce que ça crée des conflits aussi, quoi. Physiquement, vous vous épuisez et en fin de journée, vous n'arrivez plus à vous contrôler, quoi. Ça devient délicat. Voilà, il faut éviter à tout prix le conflit.
Et est-ce que vous avez l'aide que vous avez pu avoir d'extérieur a pu vous soulager sur des choses du quotidien? Est-ce que ça a permis à un moment donné de se rendre compte que justement on pouvait être remplaçable ou en tout cas sur des tâches bien précises?
Absolument, c'est absolument très important, même si ce n'est qu'un temps horaire, je dirais limité. Bon, moi c'est 4 heures par semaine, je vais vous faire rire, c'est pour aller faire les courses, quoi. Aller faire les courses et prendre l'air. Moi j'adorais faire du vélo, je sais que je pouvais tant que j'ai pu, j'en ai fait. Et bon, le vélo, elle est tellement devenue exigeante que je n'arrive plus à avoir un moment à moi, quoi. C'est du 24 sur 24, quoi.
Ça veut dire que même tous vos temps de loisirs sont impactés par ça.
J'en ai plus. Si je ne les crée pas, vous voyez, j'avais prévu cette année de l'emmener pendant un mois. Si vous ne les créez pas, ben, vous ne les avez pas, quoi. Il faut savoir effectivement le faire. Il y a des moments où c'est possible, mais il y a des moments où vous avez envie de rien, quoi. Vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit, si ce n'est bien vous occuper et puis rester dans votre coin, quoi. Et ça, justement, ce n'est pas bon. Il faut au contraire ouvrir un maximum de portes. Parce qu'il existe des associations, des institutions qui sont capables de vous écouter, de vous conseiller, de vous orienter. Et pour boucler la boucle, une fois que vous avez pris votre décision, ils vous accompagnent. Donc.
Vous êtes pour, en fait, avoir, à un moment donné, avec un peu du recul, prendre des relais suffisants.
Oui.
Ouais, d'accord. Trouver les relais qu'il vous faut dans votre environnement.
Absolument.
D'accord. Donc, la maladie, en fait, et le handicap d'un proche touche toujours intimement chaque personne de l'entourage, on vient de le voir, qu'il soit familial ou amical. Elle vient questionner l'histoire familiale et les liens entre chaque personne. Elle vient aussi modifier les rôles et la place de chacun, créer un déséquilibre qu'il faut retrouver, enfin, il faut retrouver un équilibre surtout. Il n'est pas rare que les vieux conflits ou griefs ressurgissent à ce moment-là, notamment dans la relation parent-enfant. Hein. Souvent, l'aidant n'a pas choisi de l'être, hein, il n'a pas choisi d'être aidant, il s'est retrouvé à cette place malgré lui. Qu'il endosse ce rôle peut tout à fait convenir à une partie de l'entourage, ou bien alors cela peut susciter certaines tensions dans la famille. En ce qui concerne le conjoint de l'aidant, ce n'est pas toujours facile, car leur vie de couple et de famille s'en trouve considérablement chamboulée, c'est ce dont on vient de parler. Il est souvent compréhensif, mais il peut y avoir des tensions, c'est ce que vient d'évoquer M. Crochet, et aussi allant jusqu'à une dégradation de la relation. Certains conjoints s'impliquent beaucoup, quelquefois encore beaucoup trop à goût de certains professionnels auprès du malade. Des études montrent que les proches développent leurs compétences pour faire face aux contraintes liées donc à ces difficultés. L'aidant développe de manière à faire face des compétences et même aussi ce qu'on appelle des stratégies d'ajustement aux situations. Il peut même s'épuiser à mettre en place toutes ces stratégies.
Donc la présence de tiers familiaux, amicaux et professionnels offre alors la possibilité à chacun de prendre de la distance, d'exprimer sa réalité pour enfin parvenir à s'apaiser. Il est donc essentiel que la relation entre l'aidant et l'aidé puisse de temps en temps être tiercisée. Monsieur Crochet disait qu'effectivement, il fallait de plus souvent possible même voir, discuter et sortir. Donc la relation est pour ainsi dire protégée et réservée. Nous recevons donc Pomme Onadja, qui est conseillère technique à la MSA de Blaye, pour évoquer la nécessité du répit. Bonjour Pomme.
Bonjour.
Pouvez-vous nous parler des actions qui se sont déroulées sur le territoire de la Haute-Gironde ?
Alors, il existe des actions innovantes de différents types sur le département, des actions de répit pour les aidants. Sur le territoire de la Haute-Gironde, qui est en fait qu'on appelle aussi le Blayais, autour de Blaye, depuis 3 ans maintenant, les partenaires mettent en place un séjour de répit pour les aidants.
Comment est née l'idée de ce séjour aidant-aider ?
En 2010, la Mutualité sociale agricole de la Gironde a initié un programme de soutien aux aidants en Haute-Gironde. Pour cela, un diagnostic, c'est-à-dire une étude, a été menée pour faire apparaître les besoins des aidants. Et ces besoins étaient des besoins de répit, besoin de temps pour souffler, pour se réapproprier des moments de vie dans le but d'éviter de l'épuisement. Aussi, les membres décisionnaires de ce programme, qui sont les services d'aide à domicile, la MSA, le département, les communautés de communes, la CARSAT, par exemple, ont souhaité qu'un groupe de travail propose un projet de vacances pour les aidants. Et afin d'être au plus proche des souhaits des aidants, nous avons décidé de les interroger. On a diffusé auprès d'eux des questionnaires auprès d'une 60aine d'aidants pour pouvoir construire un séjour qui soit adapté à leurs besoins réellement.
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots en quoi consiste ce séjour ?
Alors ce séjour est un séjour qui a une thématique, celle du bien-être. Il se déroule sur une durée de 3 jours au sein d'un centre hôtelier spa à Lacanau-Océan. Le principe de ce séjour, c'est la pension complète. C'est quelque chose qui était vraiment demandé par les aidants lorsque nous avons fait passer les questionnaires. Donc un principe où les aidants n'ont qu'à, les participants, hein, n'ont qu'à mettre les pieds sous la table et n'ont plus du tout à gérer le quotidien. Au programme de ce séjour, ce sont des sorties à la plage, des soirées animées, des moments de bien-être avec de la détente, des massages, un peu de sophrologie pour se relaxer et encore, ils peuvent aussi profiter de l'ensemble de la structure avec le jacuzzi, la piscine. Donc vraiment de quoi entrer un petit peu dans un autre monde, un monde de détente.
Au moins pendant 3 jours. À qui ce séjour s'adresse-t-il ?
Alors ce séjour s'adresse aux aidants qui sont en situation d'épuisement et qui sont accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs proches aidés. Donc pendant ce séjour peuvent venir des aidants ou bien des aidants seuls ou bien des aidants avec leurs proches.
D'accord. Et alors pourquoi certains partent seuls et d'autres accompagnés ? C'est un choix ? C'est comment ?
Alors en fait, pour certains, partir avec leurs proches, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout se séparer et ils souhaitent vivre cette expérience-là ensemble, tout en se réservant des moments solo. Et puis pour d'autres, la participation, elle doit se faire seule. Soit parce que c'est impossible en termes d'organisation d'emmener le proche aidé dans de bonnes conditions d'accueil et de soins. Soit parce qu'il est plus profitable à l'aidant de prendre ses moments de répit tout seul pour bénéficier d'un vrai repos. Et dans ces cas-là, souvent, il s'agit d'une préconisation des professionnels qui les accompagnent.
Oui, c'est très important. Du coup, comment les aidés sont-ils mobilisés pour participer ? Comment vous avez recruté, si on peut parler comme ça, de ce couple aidant aidé ou de personnes seules ?
Alors, c'est vrai que cette action de séjour est connue maintenant très bien par les partenaires qui sont en contact des aidants sur le territoire de la Haute-Gironde. Et les personnes qui sont susceptibles de participer au séjour, on pourrait dire entre guillemets, elles sont repérées par les professionnels des structures d'aide à domicile, les évaluateurs APA du département, les assistantes sociales de l'hôpital, les travailleurs sociaux de la MSA ou autres, mais ainsi que les foyers pour personnes handicapées. Et plus largement, tous les partenaires de l'action. Ces professionnels vont donner aux aidants une première information sur le séjour. Ensuite, on a une démarche un peu plus importante, qui est une réelle démarche d'accompagnement dans la durée, qui va se mettre en place, où on va avoir différentes étapes. Donc, les personnes qui sont repérées vont bénéficier de la visite d'un professionnel qui est membre du groupe de travail organisateur de cette action et qui va leur présenter très concrètement le séjour et va pouvoir les aider à s'y inscrire. L'accompagnement, il va se mettre en place pour pouvoir organiser, si l'on peut dire, une prise en charge de l'aider. C'est-à-dire pendant le séjour s'il vient, pour pouvoir organiser la continuité des soins, parce que la plupart ont des soins d'aide à la toilette, de l'aide pour les repas, de l'aide pour s'habiller, de l'aide à la personne, comment on l'appelle. Mais aussi organiser des aides pendant le séjour et prendre en compte leur souhait d'avoir des temps en commun ou des temps séparément. Et cet accompagnement à la prise en charge peut se faire donc pour la prise en charge pendant le séjour, mais c'est aussi pour ceux qui ne viennent pas au séjour. C'est-à-dire que quand un aidant vient seul à ce séjour, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour que le proche aidé puisse de son côté être accompagné dans le quotidien. Donc ça peut être des solutions vers de l'hébergement temporaire ou de l'organisation avec la famille, ou bien une garde à domicile. Enfin, il y a organisé quelques temps avant le séjour une réunion de préparation au départ qui regroupe tous les partants et les encadrants qui seront présents lors du séjour pour pouvoir faire connaissance et puis répondre à leurs questions, mais aussi régler les derniers détails comme qu'est-ce qu'on met dans son sac ou bien les questions de dernière minute au niveau de l'organisation. Parce que pour beaucoup, c'est souvent un premier départ depuis 20 ans vers les vacances.
Le transport.
Et le transport est aussi vu aussi à ce moment-là.
Merci, on se retrouve juste après une autre pause.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? J'ai fait l'amour. J'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
voilà de retour sur les ondes de Radio Entre-deux-Mers pour notre émission sur la relation aidant-aidé. Avant la pause, nous avons commencé à évoquer les solutions de répit qui permettent de soutenir les aidants. Pour poursuivre, nous retrouvons notre témoin, M. Crochet, et nos témoins, et Pomme Onadja. Monsieur Crochet, avez-vous été informé de ce séjour de répit comment avez-vous été informé de ce séjour de répit à la Cano-Océan?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai subi une formation Maya pendant 5 après-midi sur 5 semaines. Et en bout de la formation, on nous a expliqué qu'il y avait une possibilité de séjour aidant-aidé à la Cano. Et j'en ai eu confirmation après par la MSA qui est venue après vraiment m'expliquer ce qu'était ce séjour aidant-aidé par rapport à ce que je vivais, quoi, tout simplement.
Vous êtes parti seul ou avec votre femme?
Je suis parti avec mon épouse. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble important d'essayer d'ouvrir toutes les portes, de ne pas se fermer, de ne pas rester dans son coin. Donc, à partir du moment où vous avez des professionnels qui vous expliquent, qui peuvent vous amener dans ce type de situation, il n'y a pas lieu, à mon avis, de résister. Quoi. Au contraire, il faut y aller les yeux fermés.
Par contre, vous avez fait le choix de vraiment partir avec la personne que vous aidiez.
Oui.
Ça vous a pas, à un moment donné, il n'y a pas eu d'obstacle pour vous à ça?
Non, là, aucune réticence. Non, au contraire.
Vous avez fait confiance tout de suite aux personnes qui pouvaient vous proposer ça? Vous avez posé des questions?
C'est un petit peu ce que je dis. J'arrive pas à mon âge maintenant. Ça, j'ai marché beaucoup au feeling sur du commercial, puisque j'ai fait pas mal de commercial. Et après, je ne me suis pas souvent trompé. Donc, les personnes, vous arrivez à voir à qui vous avez affaire et bon, savoir où vous mettez les pieds, tout simplement.
Et là, vous étiez confiant, hein?
Tout à fait. Et je confirme que je suis toujours confiant.
Donc, Pomme, pouvez-vous me dire quelles étaient les attentes des participants, s'il y en avait, des attentes?
Alors c'est vrai que les participants, ils ne sont à l'origine pas eux-mêmes dans la démarche de rechercher ce type d'expérience, c'est-à-dire de séjour de répit. Vous en avez parlé tout à l'heure aussi de la question du répit pour les aidants et que c'est pas une première chose qu'ils demandent. Ceux qui participent au séjour sont soit orientés par un professionnel du territoire, soit parce qu'ils ont une connaissance qui a elle-même participé. Les aidants, une fois qu'ils sont familiarisés avec l'idée de ce séjour, ils vont avoir des attentes qui sont des attentes évidemment de repos, de ne rien faire sur ce séjour, de ne s'occuper de rien, juste de vivre de bons moments, de ne plus prendre en charge le quotidien. Ils en attendent des promenades, de voir l'océan, puisque c'est quelque chose pour certains qu'ils n'ont pas vu depuis plusieurs années, de vivre des joies simples. Mais il y a aussi une attente assez importante de rencontrer des personnes qui vivent la même chose qu'eux, qui sont en mesure de les comprendre et avec qui ils vont pouvoir échanger.
D'accord. Et ça, Monsieur Crochet, les échanges avec les autres aidants, c'est
important aussi, oui, tout à fait, de pouvoir parler, avoir les mêmes mots, quoi. On retrouve encore la même chose qui revient, mais on va pouvoir échanger des expériences que l'on a eues, de ce que l'on a tenté, de ce que l'on essaie de faire.
Les solutions,
ça, c'est très, très important. L'encadrement, on vous êtes pris en main à 100%, quoi. C'est la colonie de vacances, quoi. C'est Pierre Perret, quoi. Et j'ai rajeuni de 50 ans, quoi. C'est exactement ça. Et puis, que ce soit les bénévoles, que ce soit les professionnels, vous êtes pris en charge. Et le mot qui sort à la fin du séjour, c'est toujours le même. Il y a un gros bémol, c'est vraiment trop court, quoi.
Ouais. Voilà.
Donc, Monsieur Crochet nous faisait part tout à l'heure qu'il n'avait pas de réticence, mais est-ce qu'il y a des participants qui ont eu des réticences, des préjugés quant au départ dans ce séjour?
Alors, je vais plutôt parler d'inquiétude. Ce qui inquiète les participants, c'est vraiment la continuité des soins, la sécurité et la prise en charge de leurs proches pendant qu'ils sont en activité. Je me souviens d'une personne qui craignait de rencontrer aussi des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson comme elle. Elle avait peur de voir une image de personnes davantage atteintes, plus diminuée qu'elle et qu'elle y voit son image future, qu'elle refusait de voir. Donc pour elle, c'était quelque chose vraiment qui l'inquiétait sur ce séjour. Et au contraire, en fait, il s'est révélé que ce séjour a été un moment pour elle de soulagement par le partage des expériences qu'elle a pu faire et par le fait d'être compris par les autres qui vivaient la même chose et de voir comment les autres avancent et font face à la maladie et comment ils arrivent à trouver des ressources, que ce soit dans le couple, dans leurs relations et puis dans le quotidien, comment faire face malgré l'évolution de la maladie.
Donc là, pour le coup, il a peut-être des fois fallu convaincre certains futurs participants. Et avec quels mots, comment convaincre dans ces cas-là?
Alors c'est vrai que les personnes qu'il faut convaincre souvent, ce sont les personnes pour qui les professionnels ont estimé que l'aidant ne pourrait pas partir avec son proche parce qu'il était beaucoup plus profitable pour lui qu'il y ait... Que l'aidant participe seul à ce séjour. Donc, il y a des personnes où il faut vraiment un accompagnement assez long pour vous situer un peu. Ce séjour, il a lieu chaque année au mois d'octobre. Et les personnes commencent à être repérées des fois même un an avant. Et souvent, l'accompagnement vraiment plus approfondi commence au printemps jusqu'au mois d'octobre pour les accompagner vers ce séjour. Et donc je pense à une aidante qui était en activité professionnelle et dont le mari avait des troubles cognitifs très importants. Nous l'avons convaincue de participer à ce séjour seule pour qu'elle puisse se reposer. Et son mari, lui, a été accompagné pour aller vers un hébergement temporaire. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que monsieur va maintenant régulièrement vers un hébergement temporaire et madame, elle, peut partir travailler en toute sérénité et peut prendre aussi le peu de petits moments pour elle qu'elle est en mesure de prendre grâce à ces temps d'accueil.
Donc, quand on revient à l'action, quels sont d'après vous, là je m'adresse aux deux témoins, quels sont d'après vous les points forts de cette action?
Monsieur Crochet, peut-être. Allez.
Ouais, la prise en charge à 100%, quoi. Vous êtes coucougné, bichonné, cocoté. C'est, on est dans un cocon, quoi. C'est, en plus, mais l'endroit où ça se passe, les gens se sont aussi mis à notre niveau. Ils nous ont aussi bichonné, coucouné. Je vous dis, le mot qui revient au bout de 3 jours, c'est trop court, quoi. On n'a pas le temps de commencer à s'habituer, qu'il faut déjà repartir. Et ça, c'est vrai qu'il nous tarde qu'il y en ait d'autres. Mais bon, c'est pas facile, c'est pas évident. Il faut savoir le travail que ça représente. Je pense que c'est un travail qui est très très long. Hein. C'est ce que disait Pomme. De façon, pour convaincre certaines personnes, il faut... Et justement, ça peut être, je ne sais pas si c'est possible ou pas, justement avec l'expérience des gens qui ont déjà vécu le séjour, on peut éventuellement vous aider à les convaincre si vraiment vous en sentez la nécessité aussi.
Du coup, Monsieur Crochet, est-ce que ça, vous avez reproduit cette expérience alors différemment, mais est-ce que vous avez, entre guillemets, vous, pris du temps pour vous seul et votre femme en hébergement temporaire? Est-ce que c'est des choses que vous avez organisées ou vous n'arrivez pas à le faire en dehors de ce séjour?
Ça m'est un petit peu compliqué puisque, bon, mon épouse devient de plus en plus exigeante, je dirais, hein, entre guillemets. Et donc, comme je veux impérativement ne pas avoir de regrets, ben, j'essaie de l'aider du mieux du peu. Donc, tout ce qui est loisir, ben, je lâche un petit peu, quoi. Je laisse tomber et puis ben, je m'occupe d'elle, sachant qu'il y a effectivement des gens qui un jour vont prendre le relais et ben, ça sera un cap qui sera encore à passer, quoi.
Mais vous aurez l'impression d'avoir fait tout ce que vous pouviez.
Voilà.
Du coup, Pomme, d'après vous, les points forts de toute cette action?
Alors, je crois que déjà, comme disait Monsieur Crochet, cette action, elle se déroule dans un cadre qui est particulièrement agréable, puisqu'en fait, c'est au Vital Park de la Cano Océan, c'est au milieu de la Pinède, proche de l'océan. C'est un centre de bien-être. Donc, c'est aussi un cadre avec un personnel sur place de cet établissement qui sont aussi très accueillants, très attentifs. Et qui fait qu'on est vraiment dans une autre ambiance. Après, les deux raisons qui donnent un retentissement à cette action et qu'elle fonctionne, c'est parce que la première, c'est parce que ce séjour, il a été élaboré à partir des souhaits d'aidants. Donc, c'est-à-dire qu'il a une forme qui répond à leurs besoins. Le fait d'être en pension complète, le fait de pouvoir partir avec son proche si on le souhaite, si c'est possible... Donc ça c'est la première chose qui fait que ce séjour peut avoir une réponse de la part des aidants. Et le deuxième point fort, c'est l'encadrement. C'est un encadrement qui est assuré par des professionnels du secteur médico-social, donc aides-soignantes, médecins, ostéopathes, pharmaciens, travailleurs sociaux. Donc des professionnels qui sont convaincus des bienfaits de ce séjour et qui sont disponibles nuit et jour, puisqu'en fait l'encadrement est présent en journée et les professionnels de santé et un encadrant aussi dorment sur place et sont là pour vraiment être disponibles en cas de besoin et assurer vraiment l'ensemble de la sécurité et des soins pour les participants. Et il y a aussi une autre dimension à ce séjour, je dirais un peu une dimension intergénérationnelle, parce que ce sont de jeunes professionnels de santé qui sont présents lors du séjour, de jeunes médecins qui viennent bénévolement, hein, je tiens à le souligner, qui viennent bénévolement sur ce séjour. Et cet aspect intergénérationnel, ça plaît aussi aux participants, ce qui ressortait de nos évaluations qu'on a pu passer auprès des participants. Et il y a aussi, sur certaines années, des associations qu'on appelle associations de malades, comme France Parkinson, qui viennent sur des journées pour échanger avec les participants. Et c'est ça aussi qui donne des points positifs à ce séjour.
Pour synthétiser, c'est trois jours de bonheur, quoi. C'est comme la chanson.
Mmh. Ouais,
honnêtement, c'est que des bons moments, quoi. C'est un petit peu. Moi, j'ai fait l'armée, puisque je suis vieille génération, donc on garde en tête. Je ne garde en tête que les bons souvenirs. Là, il n'y a que des bons souvenirs.
Ouais, c'est formidable.
Et je voudrais ajouter aussi. C'est vrai que l'encadrement, c'est aussi des personnes qui travaillent ensemble maintenant depuis. 4 ans, parce que cette année, ce sera la 4e édition de ce séjour. Et depuis 4 ans, ces professionnels travaillent ensemble, ont l'habitude d'organiser ce séjour ensemble et du coup se connaissent bien, ce qui assure une certaine cohésion pour le groupe qui est nouveau chaque année. Mais il y a une petite chose dont je n'ai pas parlé encore, c'est que le séjour, il dure 3 jours et chaque année, ce sont de nouvelles personnes qui participent à ce séjour. Mais chaque année, on propose aussi à ceux qui ont participé au séjour précédent de venir sur une journée pour profiter de revenir une fois sur ce cadre-là, rencontrer d'autres personnes et revivre ces moments et ces souvenirs-là ensemble.
Donc, pour chaque séjour, vous trouvez une 20aine de personnes, c'est ça? De couples ou de personnes
toutes
seules?
Oui, à l'origine, quand le groupe se réunit pour à partir des personnes qu'on a un petit peu pressenties pour ce séjour, on est souvent à une 30aine de personnes. Et puis petit à petit, parce que la situation des personnes aidées est très fragile, souvent il y a des personnes qui sont hospitalisées, des personnes qui entrent en établissement. Donc le groupe, petit à petit, il y a des personnes qui ne peuvent plus participer, qui ont des difficultés, et ce qui fait qu'en général, c'est toujours un séjour d'une 20aine de personnes, et on a chaque année 20 personnes différentes par rapport à l'année précédente.
Vous avez autant d'encadrants, donc de professionnels et de bénévoles, que d'aidants aidés.
Je comprends le cocooning.
Oui, je comprends les mieux.
Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler des changements qui ont pu être opérés ou constatés lors de ce séjour dans la relation aidant-aider et de quel ordre étaient ces changements?
Alors, j'ai envie de vous répondre à vos questions par les expériences qu'on a pu vivre. Donc, une illustration concrète, c'est celle d'un couple, mari et femme, qui sont venus ensemble au séjour. Monsieur était atteint de la maladie de Parkinson et avait besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Et avec le temps, madame était devenue tellement aidante qu'elle était maintenant presque perçue comme une professionnelle par son mari. Sont plus du tout comme une épouse, comme sa femme. Elle prenait un rôle différent en fait au sein de ce foyer. Et le séjour a permis en fait au couple, par les moments qu'ils ont vécu ensemble, de se rapprocher, de danser ensemble, et puis je dirais même, parce que c'était le cas, de ranimer une flamme qui s'éteignait et qui disparaissait devant l'aide qui était apportée. Et ça a permis aussi au monsieur qui était lui la personne aidée de se rendre compte aussi de ce qu'il pouvait exiger envers son épouse. C'était quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il exigeait beaucoup trop, qu'il était très dur et qu'il ne laissait pas de répit à son épouse, qui, pour utiliser ses mots, hein, qui passait sa frustration sur elle. en pouvant en devenir agressif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de l'avoir vue dans ce séjour, de l'avoir revue souriante, d'avoir échangé avec d'autres personnes, il est moins exigeant, il est beaucoup plus tolérant sur les moments qu'elle peut avoir à elle. Et elle aussi, du coup, de son côté, elle ose prendre du temps pour elle.
Monsieur Crochet, vous, suite à ce séjour, il y a eu, vous avez remarqué des changements de...
Honnêtement, je n'ai pas trouvé un changement dans son attitude ou quoi que ce soit. Quoi.
Ça n'a pas changé votre quotidien au retour à la maison, mais vous avez bien profité pendant trois jours, c'était super.
Les trois jours ont été des trois jours où la soupape a tout vidé. Quoi. Mm.
Et votre, dans ce contexte de séjour, est-ce que vous avez trouver du lien avec d'autres, on a peu parlé, hein, mais de l'échange entre les participants.
Pendant le séjour, oui, effectivement, on échange avec les professionnels, on essaie d'échanger avec les gens qui vivent la même chose que nous. Après le séjour, c'est plus compliqué, il y a le train-train qui recommence, et après, démarrer sur quelque chose, c'est un petit peu compliqué, je crois, hein, pour tout le monde.
Je voudrais aussi peut-être faire une petite distinction. C'est vrai qu'au cours de ce séjour, il y a des personnes qui sont aidants, de personnes qui ont des maladies avec des troubles cognitifs, tels que la maladie d'Alzheimer, mais on a aussi des personnes qui sont atteintes de troubles, on va dire, un peu plus physiques, comme la maladie de Parkinson, qui vont faire que la personne, elle est vraiment en pleine capacité pour se rendre compte de la situation, donc comme l'exemple que je citais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des personnes qui participent à ce séjour qui sont aidants de personnes handicapées, donc aussi avec des enfants handicapés. Hein, jusque-là, des personnes adultes, mais il y a différentes situations où bien des personnes en avancées en âge et qui ont plutôt une perte d'autonomie. Et sur les situations dans lesquelles les relations peuvent évoluer, je voulais vous donner aussi un autre exemple de changement au sein d'un autre couple qui était venu en séjour. Pour qu'une personne, un couple venu au séjour, oui, qu'une personne avait participé seule au séjour, on avait organisé un projet d'hébergement temporaire pour l'époux, afin qu'il puisse participer à ce séjour-là. Donc, en amont, il y avait eu la visite de l'EHPAD, où ensuite, il y avait eu un premier essai d'hébergement temporaire. Et ensuite, pendant le séjour, la personne avait été accueillie en hébergement temporaire sur l'EHPAD. Et le fait d'avoir participé à ce séjour, d'avoir mis en place ces aides-là, a fait que l'aidante a davantage accepté les aides professionnelles à son domicile. Parce que jusque-là, c'était très compliqué de permettre aux professionnels d'entrer au domicile. Et elle a pu ainsi prendre du temps pour elle. Aujourd'hui, l'époux, il est hébergé en hébergement temporaire, une semaine tous les mois ou tous les mois et demi. Grâce à un travail conjoint entre des professionnels de la Maya, de l'EHPAD, et avec une inclusion de l'hébergement dans le plan APA. Ce sont des termes un peu techniques, mais pour certains, ça pourra parler. Ces hébergements temporaires, maintenant, ils sont organisés de telle façon qu'ils soient proches du domicile des enfants, ce qui permet à la fois aux enfants de pouvoir voir le parent qui est hébergé et à l'autre parent qui est en situation d'aidante de pouvoir profiter des enfants. Donc, il y a des organisations comme ça qui se mettent en place et qui peuvent se mettre en place parce qu'il y a eu à un moment donné quelqu'un qui s'est mobilisé sur cette situation, une participation à ce type d'action.
Et est-ce que suite au séjour, les aidants ont des relations, on continue à communiquer avec les autres aidants, les autres personnes qui sont allées au séjour? Est-ce que vous continuez à vous appeler, à vous parler, à vous voir?
C'est un petit peu le but recherché, quoi. Moi, effectivement. Pardon. Oui, c'est un petit peu le but recherché. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est compliqué parce que le train-train reprend ses habitudes, on reprend ses habitudes, on reprend son train de vie. Et comment faire pour effectivement changer, passer à autre chose de temps en temps, pas tous les mois ou toutes les semaines, mais de temps en temps, j'avoue que je ne sais pas.
Vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait, se mettre en place des choses
Moi, le premier, oui, je suis demandeur de ce genre de choses. Oui, effectivement, je serais intéressé par pouvoir échanger, par pouvoir dire, faire la continuation du séjour que l'on a vécu et pouvoir, à travers ça, voir mon évolution aussi, puis voir l'évolution des gens. On peut s'aider l'un à l'autre, c'est tout simple. Quoi. Je ne vous cache pas que j'ai sympathisé au cours du séjour avec une petite dame qui habite pas loin de chez moi, qui, elle, c'est du 24-24 aussi. Et elle s'occupe de son mari qui a Alzheimer et qui est dans un fauteuil roulant. Je passe à la voir une fois par semaine, ça coûte rien. C'est 2 heures avec elle par semaine, mais elle apprécie beaucoup. Et c'est un échange qui, à mon avis, doit pouvoir se faire si on prend le temps de rechercher un petit peu.
Ça veut dire qu'après ça, il y a un moment où de flottement, quoi. Et il y aurait des choses à construire autour
après
le séjour.
Je vais mettre les professionnels à contribution. Je vois que
on en prend note, on en prend note. On l'a
non,
constaté.
Mais j'avoue que j'ai trouvé, c'est le mot qui me vient, on a le privilège d'avoir au Gironde des gens qui sont interconnectés, institutions privées, publiques, qui sont interconnectés entre eux. Et s'ils n'ont pas la solution, ils sont capables de vous la trouver. Donc c'est, voilà.
Donc on remercie tous les groupes qui ont pu travailler là-dessus et Pomme peut-être...
Le dernier mot.
Oui, alors pour le petit mot de la fin, je voulais dire que maintenant, cette action qui au départ a été montée, pilotée par la MSA de la Gironde, maintenant c'est une action qui est territoriale, qui est portée conjointement par la communauté de communes de l'Estuaire, l'association Espace de vie et d'accueil de l'Estuaire, l'EHPAD du Mont des Landes à Saint-Savin, l'association AMSAD avec la MAYA et la Mutualité sociale agricole de Gironde. Et donc, c'est aussi grâce au soutien financier de nombreux partenaires comme le département, l'ARS, les caisses de retraite comme la CARSAT, la MSA, le RSI, le groupe Agrica, les associations France Parkinson, France Alzheimer, le Lions Club, les communautés de communes de la Haute-Gironde et des communes de Haute-Gironde. C'est grâce à ces partenaires-là que cette action, elle peut avoir lieu et grâce à la disponibilité au bénévolat de professionnels de santé. Donc j'en profite pour me remercier tous les professionnels qui se mobilisent autour de cette action afin qu'elle perdure. Et je remercie aussi beaucoup Monsieur Crochet d'avoir voulu témoigner aujourd'hui d'avoir participé à ce séjour et d'en être un porte-parole tel qu'il est.
Merci. En tout cas, on se rend compte qu'il faut énormément de motivation et de mobilisation pour faire juste un tout petit séjour de 3 jours. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire sur l'après-séjour. Hein, c'est ça. Donc, merci, Monsieur Crochet.
Merci à vous.
Merci, Pomme. Et j'espère qu'on pourra profiter de l'expérience de la Haute-Gironde pour le faire dans le Sud-Gironde. Ce serait pas mal. Merci Béatrice et merci la MSA de m'avoir permis de faire des émissions de radio. Merci Radio Entre Deux Mers.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous.
À très bientôt.
Peut-être.
Voilà.
Merci.